Merci, David. Quelle joie pour moi d'être de retour à l'église Nouvelle Vie Drummondville. Vraiment une joie pour moi. Il y a deux choses nouvelles depuis la dernière fois que j'étais avec vous l'automne passé. La première est que vous êtes dans votre nouvelle place. Et moi, j'ai mis mes pieds ici pour la première fois ce matin, puis j'ai juste un mot à dire à ce sujet. Wow! Wow! Quand j'ai rentré ici... Juste à côté de l'avant, rentrer ici, l'ordre d'entrée, l'accueil, les classes, toute la mise en place, le système, les écrans et tout, là, j'étais comme émerveillé. Alors, wow, bravo à toute l'équipe, bravo à tous et chacun de vous. Je vous félicite pour le bon travail que vous avez, l'emplacement ici et le bâtiment. C'est vraiment wow, c'est fantastique. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, bravo pour ça. La deuxième chose nouvelle depuis la dernière fois que j'étais avec vous, c'est que je suis pour la première fois grand-père. Yes! Pour la première fois, notre petit-fils est arrivé dans le monde il y a quelques mois. Alors, n'importe quelle occasion pour vous montrer une photo. Hein? Ça, c'est Jasper. Mon petit garçon, premier petit garçon, puis ça, c'est les quatre générations. Il y en a plusieurs qui connaissent mon père, le pasteur Samuel Lecomte. Lui était un seul fils, moi je suis un seul fils, qui est un seul fils, qui est maintenant un seul fils. Le nom Lecomte va continuer. C'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde, mais c'est une bonne nouvelle pour nous. Son nom est Jasper, parce qu'ils ont aimé leur voyage de noces à Jasper, Alberta. Alors, ils l'ont nommé Jasper. Moi, je suis juste content qu'ils n'ont pas voyagé à Coujouac. Jasper, le compte est correct, mais Coujouac, le compte, je ne suis pas certain. Mais n'importe quelle occasion pour vous présenter mon petit-fils. Et bravo aussi, hein? Félicitations, David, toute l'équipe, pour le bon travail et la croissance de l'Église. Et aussi, félicitations à Will et à tous et chacun de vous. Vraiment, là, Will et son épouse, là, ça, c'est quelqu'un que je connais depuis qu'il est arrivé pour sa formation à l'ETF. Et un homme que j'admire et apprécie beaucoup. Et très, tellement heureux pour lui, son épouse, et tellement heureux pour vous, pour Pasteur Dave aussi, puis toute l'équipe, de l'avoir sur votre équipe, avec tous les talents et les dons que Dieu lui a donnés, et ainsi que la maturité, puis la sagesse, et vraiment, c'est une grâce. Alors, le Seigneur agit à l'Église Nouvelle Vie, Drummondville, ça c'est évident. C'est vraiment... Moi, je me souviens des premières rencontres que j'ai eues avec quelques leaders, Pierre et d'autres leaders ici, qu'on a eu des rencontres, qu'on parlait de ce projet-là. Et de là à aujourd'hui, waouh! Hein, le Seigneur est fantastique, le Seigneur conduit, le Seigneur pourvoit. Et ça, ça mérite plus qu'un petit applaudissement poli. Ça mérite une ovation debout. Come on, en arrière jusqu'ici, en avant. Come on, une ovation pour le Seigneur! Notre héros, notre champion, Jésus! C'est lui qui conduit, qui pourvoit, qui dirige. Yeah! Le Seigneur est bon, il met sa faveur, sa grâce, sa provision. Yes! Merci Seigneur. Une ovation pour notre champion, notre héros, Jésus. C'est les belles et bonnes choses qu'il fait. Wow! Vous asseoir. Ce matin, je vous propose trois mots qui peuvent tout changer. Trois mots pour surmonter le regret, l'anxiété ou la tristesse profonde. Ce matin, je vous présente ça. C'est mon message de ce matin. Trois mots qui nous libèrent de l'angoisse et des multiples émotions négatives et destructives qui accaparent si facilement nos cœurs, nos pensées et nos esprits, surtout dans les jours que nous vivons, surtout dans les jours comme ces jours-ci, des jours de microbes, des jours de guerre, des jours d'inflation. Trois mots pour surmonter le regret, l'anxiété, la tristesse profonde qui peuvent ronger notre intérieur comme un cancer. Alors, je vous propose trois mots trouvés en Matthieu chapitre 11, dit par nul autre que Jésus lui-même. Et je vous les donne les trois mots tout de suite, mais ne partez pas. Hein? Les voici les trois mots qui peuvent tout changer. Je te loue. Je te loue. En ce temps-là, ça nous dit, Jésus prit la parole et dit, je te loue. Père, Seigneur du ciel et de la terre. Ce matin, j'ai à cœur de vous inviter à faire comme Jésus, d'arrêter sur votre chemin pour offrir une louange d'amour, d'admiration et d'appréciation et d'affection à Dieu venant du fond de votre cœur, comme Jésus. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Et non seulement ce matin, mais à chaque matin. Et cela, peu importe vos circonstances et peu importe que ça vous tente ou pas. Et lève-là la clé de ces trois mots-là. Et dont la raison que l'écrivain ajoute les mots « en ce temps-là ». L'avez-vous remarqué? « En ce temps-là ». Jésus prit la parole et dit « Je te loue ». Donc Jésus a offert sa louange à un moment précis. Après avoir subi le rejet et la déception. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce passage? C'est que Jésus loue après l'adversité et l'épreuve. Et non pas après un moment de gloire et bonheur. Et lève-là la leçon pour tous et chacun de nous. Lève-là la force de son action de grâce. Car si vous lisez les versets précédents, c'est très intéressant ça, vous allez découvrir que trois villes venaient juste de rejeter le ministère et les paroles de Jésus. Chorazin, Bethsaida et Capernaum. Malgré les miracles qu'il a fait pour eux, ces trois villes ont dit non, non. Malgré tout ce que Jésus a fait, non, non, va-t'en d'ici, on ne veut rien savoir de toi. Et c'est pour cela que Jésus répond, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Qui veut dire quoi? Jésus les a donné son meilleur. Il a donné à ces trois villes-là sa sueur, son temps, son attention, mais sans succès. Sans réussite, sans aucun accueil, sans l'amour réciproque. Pour ses efforts et ses miracles, il reçoit le mépris et le rejet. Qui est l'exemple parfait de ce que Jean écrit par rapport à Jésus. En Jean chapitre 1, il dit, « La lumière, Jésus, est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. » Et comme prophétisé par Zacharie, si on lui demande « D'où viennent ces blessures que tu as aux mains? » Ça, c'est une parole prophétique par rapport aux clous dans les mains de Jésus. « D'où viennent ces blessures que tu as aux mains? » Il répondra « C'est dans la maison de mes amis que je les ai reçues. » Jésus a été blessé dans la maison de ceux qu'il aimait. Il était blessé chez lui, parmi les siens, le Créateur rejeté par sa création qu'il aimait. Est-ce que vous me suivez? Sa création qui aurait dû l'aimer en retour. Mais immédiatement après cet instant de rejet, de blessure et d'injustice, Jésus arrête sur le chemin et dit « Je te loue, Père ». Non pas une fois, mais deux fois. Et voici le texte au complet. Il dit « Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu lieu la plupart de ses miracles. Parce qu'elle n'était pas repentie. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. » Oui, une deuxième fois, « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » L'avez-vous remarqué? Les villes où il a fait la plupart de ses miracles l'ont rejeté. Sont les mêmes villes qui le rejettent. Ça nous enseigne deux choses. D'abord, l'erreur de surestimer l'importance des miracles pour convaincre les gens de la foi chrétienne et pour inspirer les gens à croire en Jésus. Si les gens ne veulent pas croire, ils ne croiraient pas plus, même avec des miracles. Donc, la raison pour la réaction de Jésus à ceux qui n'arrêtaient pas toujours de demander toujours un signe de plus. J'ai un passage ici à Matthieu qui vient de Matthieu et Marc où ce que ça dit, « Les pharisiens, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupire profondément en son esprit, parce que ce n'était pas la première fois qu'il demande, on veut un autre signe, on veut un autre signe, on veut un autre miracle. Il soupire en lui. Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, qui veut dire, c'est fini les miracles, le seul autre miracle va être le miracle de tous les miracles, le miracle de la résurrection. Et si Jésus était exaspéré par les chasseurs de miracles avant la résurrection, imaginez aujourd'hui après la résurrection. Car une fois que Jésus est ressuscité, que voulons-nous de plus? Que pouvons-nous demander de plus? Comme vous, moi je crois à la possibilité des miracles. J'en ai témoigné des miracles, je prie pour des miracles, je crois aux miracles. Mais... même si Dieu n'opérera aucun miracle de plus pour le reste de mes jours, ma foi ne sera pas du tout ébranlée, car Jésus est ressuscité, mon salut est garanti, mon avenir au ciel aussi, je n'ai besoin de rien de plus. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Parce que Jésus est ressuscité, il n'est plus nécessaire de poursuivre d'autres signes, des preuves de plus, d'être préoccupé avec des signes, des miracles, des symboles prophétiques ou quoi que ce soit, comme certains chrétiens le sont. Nous sommes comblés, confiants et convaincus que nous sommes sur le bon chemin. Nous n'avons plus à chercher, questionner, douter. La résurrection et le saut sur l'Évangile, un miracle de plus ne change rien. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Comment une bonne main d'applaudissement pour la résurrection de Jésus? Qui est le saut sur tout. On n'a besoin de rien d'autre, rien d'autre. Sur la première chose que ça nous enseigne ici, c'est que ce n'est pas les miracles qui vont tout changer. Il a fait la plupart de ces miracles dans les mêmes villes qui le rejettent. Ce n'est pas les miracles qui changent tout. La deuxième chose que cette histoire nous enseigne est que la vie est parfois, sinon pas souvent, injuste. Injuste. Et que ce n'est pas rien qu'à nous que ça arrive, de donner notre meilleur, de faire de notre mieux, de mettre tous nos efforts vers quelque chose ou vers quelqu'un et ne pas obtenir le résultat ou la réaction qu'on désire, vrai ou faux. Hein? La même chose est arrivée pour Jésus, un homme parfait qui fait des miracles. Jésus a donné son meilleur envers ceux qu'il aimait et reçoit une porte fermée. Ça, c'est un peu comme des parents qui donnent du mieux qu'ils peuvent envers leurs enfants. Ils font du mieux qu'ils peuvent pour les élever dans les voies du Seigneur selon les principes bibliques. Ils les aiment de tout leur cœur, mais qu'avec le temps, l'enfant refuse de croire ou de suivre ou même d'aimer. Si c'est votre cas, ne soyez pas culpabilisé ni découragé. La même chose arrive à Dieu constamment. Et c'est arrivé à Jésus. Même Jésus ne peut pas forcer personne de l'aimer ou de le suivre ou de croire en lui. Jésus aime parfaitement, mais ne reçoit pas toujours l'amour en retour. Il y a deux autres choses que nous apprenons de cette histoire. On découvre ici les deux éléments essentiels pour connaître la liberté parmi la perplexité. Deux éléments essentiels pour surmonter les émotions et les sentiments associés à une situation incompréhensible ou triste ou même tragique. La reconnaissance et la confiance. Parce que Jésus, il donne la plupart, il donne tout ce qu'il peut. Il aime sans condition, parfaitement. Mais là, après le rejet, c'est comme si Jésus disait, « Ce qui m'arrive ne fait pas mon affaire. Ce qui m'arrive me fait mal. Ce n'est pas ce que j'aurais choisi comme réponse ou comme attitude ou comme résultat pour mes efforts. Mais j'ai confiance en ta volonté pour moi, Père, et je te rends grâce. Je te rends grâce non pas pour qu'est-ce qui va mal, mais pour qu'est-ce qui va bien. Non pas pour qu'est-ce que je n'ai pas, mais pour ce que j'ai. » Et qu'est-ce qui m'impressionne dans cette histoire, Pasteur David, c'est cette attitude de gratitude que Jésus démontre, une attitude de confiance, confiance en la souveraineté de Dieu, la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, l'autorité de Dieu, et que, ultimement, rien n'échappe à l'attention de son Père. Remarque la richesse et la profondeur de la perspective de Jésus qu'on découvre dans cette petite déclaration, qui fut comme une arme pour combattre les sentiments du rejet incompréhensible qui vivait. Le remarque, je l'ai ici sur l'écran. D'abord, je te loue. Ça, c'est la reconnaissance. Je te loue. La reconnaissance malgré la situation. Père, confiance en la bonté du Seigneur, de Dieu. Seigneur du ciel et de la terre, confiance en l'autorité de Dieu, de ce que tu l'as voulu ainsi, confiance en la souveraineté de Dieu. Wow, c'est riche. Ça vaut la peine de le répéter. Je te loue, reconnaissance, la décision de la reconnaissance, parce qu'il y avait confiance en la bonté de Dieu. Tu es mon Père, malgré ce que je vis ici-bas. Tu es le Seigneur du ciel et de la terre. Confiance en son autorité et que tu l'as voulu ainsi. Confiance en la souveraineté de Dieu. Wow! Si quelqu'un me demanderait, Pasteur Marc, quelle est l'essence de la vraie foi chrétienne? Moi, je répondrais sans hésitation, la confiance. La confiance. Non pas la capacité d'obtenir tout ce que nous voulons quand nous voulons ou de réclamer tout ce qu'il faut pour avoir une belle vie idéale ou d'attendre que Dieu s'arrange pour imposer sa volonté sur les autres pour faire notre bonheur. Non, c'est la confiance. Moi, je dirais l'essence de la vraie foi chrétienne, c'est la capacité de louer Dieu et d'avoir confiance en sa bonté et en sa volonté, même quand nous vivons des choses difficiles, même quand nous ne comprenons pas, même quand nous n'avons pas toutes les réponses. Confiance malgré la déception et les blessures, malgré les actions et les décisions des autres. Confiance. Combien ici ont la confiance en Dieu? Levez vos deux mains pour dire oui, j'ai la confiance. Tout n'est pas parfait dans ma vie, mais j'ai la confiance dans la bonté, la souveraineté et l'autorité de Dieu. Commande une bonne main d'applaudissement pour un Dieu qui est bon, souverain et présent. Nous avons confiance. Et c'est ce qu'on voit en Jésus, sa confiance. Si quelqu'un me demanderait, Pasteur Marc, nomme-nous quelques-uns de tes faiblesses. Moi, j'aurai une liste longue comme ça. Je contacte mon épouse, n'est pas là pour dire amen. Mais si quelqu'un me demanderait, mais Pasteur Marc, c'est quoi tes forces? Faiblesse, long comme ça. Force, peut-être deux, trois. Mais je crois qu'une de mes forces, et ma confiance en Dieu. Amen. J'ai entière confiance en son existence, sa présence, sa bonté, son salut, sa fidélité et sa parole. J'ai entière confiance en son amour pour moi, malgré que je suis indigne. Et savez-vous pourquoi que j'ai la confiance en Dieu pour moi et pour vous? Parce que je sais que nous servons un Dieu préparé. Un Dieu qui n'est jamais surpris, un Dieu qui n'est jamais pris à dépourvu, un Dieu qui n'est jamais dépassé. Nous servons un Dieu qui se prépare d'avance et qui a pourvu une solution pour mon problème avant même que je le vis. Je sais qu'il a pourvu tout ce qui est nécessaire pour ma victoire avant même que j'arrive devant le défi ou le problème. Je sais qu'il a préparé d'avance tout ce qui est nécessaire pour ma vie et pour mon succès spirituel. Nous servons un Dieu préparé. N'est-ce pas ça que la récit de la création nous enseigne? Comment que notre Dieu est ordonné, sage, capable et préparé? L'avez-vous remarqué? Dieu a préparé l'eau avant de créer les poissons. Non pas, il n'a pas créé les poissons et par la suite dit, « Ah oui, l'eau, attendez-la, vous autres, l'eau arrive bientôt. » Non, il a créé ce qui était nécessaire pour leur vie et survie avant. Comme qu'il a créé la nature avant de créer les animaux, comme qu'il a créé la terre et le ciel avec l'oxygène, la chaleur, la nourriture, avant de créer l'homme, afin que l'homme ait tout ce qui est nécessaire pour vivre avant qu'il arrive sur la scène. Car Dieu n'est jamais pris par surprise et nous met jamais dans une situation où il n'a pas pourvu le moyen pour notre vie, notre survie et notre victoire. Bonne main d'applaudissement pour un Dieu qui est préparé. Dieu est préparé. Il se prépare d'avant. Il sait qu'est-ce qui arrive. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit quand il dit « Aucune tentation nous vous est survenue, qui n'ait été humaine. Qui veut dire quoi? Vous n'êtes pas l'exception. Okay? Tout ce que vous vivez, les autres l'ont vécu aussi. Tous vos défis, vos problèmes, tests, déceptions, tentations. Il dit, on est humain, c'est ça. Vous n'êtes pas l'exception. Mais Dieu, qui est fidèle, ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire jamais Dieu va nous mettre dans une situation de trop grande pression ou tentation ou défi ou problème au-delà de nos forces. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a trop haute opinion de moi. Right? I mean, really? Really? Tu penses que je suis fort à ce point-là? Tu penses que je suis capable? Des fois, je pense qu'il y a trop haute opinion de moi. Combien veut dire amen à ça? Hein? Des fois, on dit, ouf, hein? Au-delà de mes forces, tu penses que je suis assez fort pour ça? Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Notre Dieu, oui, on passe par des tentations, des tribulations, des tests, des moments de pression, de fournaise, mais Dieu a préparé quelque chose pour nous, l'autre côté. Come on, un amen à ça. Dieu vous prépare pour le combat et la victoire. Vous êtes capables, on est capables, on est capables. Combien sont heureux que nous savons un Dieu préparé? Un Dieu qui se prépare d'avance, un Dieu qui a déjà préparé tout ce qu'il nous faut pour la victoire encore aujourd'hui en 2022. Notre Dieu est préparé. Et c'est ce qui inspire la confiance en nous, la capacité dans n'importe quelle situation d'arrêter et de dire « Je te loue parce que mon cœur est rempli de confiance. » Peu importe les circonstances favorables à pas. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il a préparé la terre pour l'homme et un moyen puissant pour vaincre les tentations et surmonter les pressions intenses. En plus, il est en train de nous préparer une place au ciel. Là, en ce moment, Dieu est à l'œuvre pour vous. Ça dit, il y a plusieurs demeures, c'est Jésus qui parle, dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Wow! Dieu est en train de préparer une place pour vous et pour moi. Yeah, come on! Dieu a préparé une terre magnifique pour accueillir l'homme. Imaginez ce qui nous attend au ciel. Wow! Alors, en ce moment, il y a deux choses que le Seigneur fait. Il prépare une place au ciel pour nous et il nous prépare pour une place au ciel. Right? Deux choses. Il travaille au ciel, mais il travaille aussi dans nos cœurs. Il prépare une place pour nous puis il nous prépare pour notre place. Est-ce que vous me suivez? Dieu est en train de nous préparer. Préparer une place, mais nous préparer aussi. Le Seigneur est toujours en train de travailler et de préparer. Il prépare une personne, il prépare un peuple, il prépare un projet. Et je crois qu'il nous prépare, vous et moi, cette Église. Il vous prépare pour la prochaine saison, le prochain chapitre de votre histoire. Wow! Vous n'êtes pas ici pour rien, là. Vous n'êtes pas ici pour rien. Car nous sommes son ouvrage. Et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Wow! Il y a des bonnes œuvres que Dieu prépare pour nous afin qu'on marche dans les choses que Dieu a préparées. Dieu a préparé un chemin et des choses fantastiques et magnifiques pour vous, pour nous, pour cette Église, dans cette ville et cette région. Si vous le croyez, une bonne main d'applaudissement au Seigneur. Dieu nous prépare des bonnes œuvres. On sert un Dieu préparé. Des choses au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que vous aimez Dieu ce matin? Vous aimez Dieu? Levez deux mains et dites, oui, moi j'aime Dieu, c'est pour ça que je suis dans l'église un dimanche matin. Well, si oui, si vous aimez Dieu, pour ceux que Dieu aime, si vous aimez Dieu. Si on est ici ce matin, c'est parce qu'on aime Dieu. On n'est pas parfait, mais on aime Dieu. Si oui, Dieu prépare des choses inexprimables pour vous. Il a pourvu une puissance, mais des miracles, des solutions, des moyens pour tout ce que vous allez faire face. Est-ce que vous le croyez? Yes. Est-ce que vous le croyez? Car le premier pas vers vivre et goûter tout ce que le Seigneur a pourvu et préparé pour nous est la foi, la confiance en Dieu, en sa provision, en sa préparation et aussi en ses promesses, en sa parole. Remarquez ce que l'apôtre Paul a dit. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Comme il est écrit, comme j'ai mentionné, je n'ai absolument aucune confiance en moi, mais j'ai entière confiance en Dieu et en sa parole, comme il est écrit, en ses promesses. Car si notre foi n'est pas fondée sur ce qu'il est écrit, elle n'est rien de plus que la superstition, le mysticisme, la foi aveugle, la foi sentimentale, la foi présomptueuse. Mais dès qu'une parole ou une promesse est écrite, nous pouvons fier sur elle. Ce que Paul y cite ici n'est pas un souhait, c'est un fait. Il ne nous souhaite pas un meilleur avenir, il le déclare comme il est écrit. C'est pour cela que je veux dire de plus en plus, je te loue. Je te loue. Comme il est écrit, c'est ce que je veux dire, répéter de plus en plus, Pasteur Dave, je veux de plus en plus juste dire, je te loue, Seigneur, parce qu'il est écrit. Entière confiance. Comme il est écrit. Moi, je veux dire ces mots-là beaucoup plus souvent que comme je me ressens, ou comme je pense, ou comme je crois, ou comme je désire, ou comme je souhaite. De plus en plus, je vais être conduit par la parole et les promesses de Dieu, par les promesses de ce livre, beaucoup plus que mon cœur ou mes sentiments ou par des impressions, car encore une fois, je n'ai aucune confiance à mes sentiments, à mon cœur, ni mon opinion, mais entière confiance en « Il est écrit ». Alors, moi non plus, je ne vous souhaite pas un meilleur avenir, je le déclare, je l'annonce, un avenir des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, des choses que Dieu a préparées pour Église, Nouvelle Vie, Drummondville, je le déclare parce qu'il est écrit. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur? C'est pas des souhaits, c'est des faits. S'il est écrit, on a confiance dans tout ce que Dieu a préparé pour nous. Quelqu'un a déjà dit, avec Dieu, nous avons l'assurance que tout sera correct à la fin. Et si en ce moment, tout n'est pas correct, ce n'est pas encore la fin. Ultimement, tout va être correct à la fin. Dieu a préparé. Dieu a préparé des moyens, prépare une place, la force. Dieu prépare un chemin, Dieu prépare des bonnes œuvres. C'est bien dit, ça. Nous avons l'assurance qu'avec Dieu, tout sera correct à la fin. Et si en ce moment, tout n'est pas correct, ce n'est pas encore la fin. Est-ce que vous le croyez? Sur le mot, les mots, « je te loue » vient de la compréhension qu'un échec ou une déception dans une affaire n'est pas la fin du monde, ni la preuve que Dieu n'est pas là ou que Dieu ne m'aime plus. Mais c'est la confiance qu'une porte fermée ici va tout simplement ouvrir une porte vers une autre chose, l'autre côté. C'est la confiance que Dieu a une volonté et un plan pour moi. C'est le refus de baisser la tête et les bras, sachant que Dieu est là, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu m'aime, et ultimement, sa volonté s'accomplira. Je te loue, fais preuve de la reconnaissance et la confiance. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Deux qualités qui, sans doute, auront un impact incroyable sur nos attitudes, sur nos paroles, sur nos pensées, sur nos actions et sur qu'est-ce qu'on dégage en tant que père, mère, ami, collègue, chrétien. Qu'est-ce qu'on dégage? C'est pour ça que je dis ces trois mots qui peuvent tout changer. Ça peut changer notre environnement, ça peut changer l'ambiance, ça peut changer l'atmosphère au travail, l'atmosphère à la maison, l'atmosphère à l'église, l'atmosphère partout. Ça peut tout changer parce que je te loue. Cette reconnaissance et cette confiance changent tout ce qu'on dégage. Parfois, on ne réalise même pas ce qu'on dégage dans une journée, dû à nos circonstances difficiles ou nos déceptions. Quand on oublie qui Dieu est et ce qu'il a fait, il est tellement facile, sous les pressions de la vie, de dégager la frustration ou la colère, la déception, la culpabilité, le découragement ou l'amertume. Et souvent, on dégage des sentiments négatifs parmi ceux qui nous aiment par rapport à quelques personnes qui ne nous aiment pas. Est-ce que vous me suivez? Souvent, on dégage des sentiments négatifs envers ceux qui nous aiment par les actions des personnes qui ne nous aiment pas. Ceux qui nous aiment souffrent par rapport à ceux qui ne nous aiment pas ou qui nous ont fait du mal. Combien de femmes et d'enfants paient le prix pour les frustrations qu'un homme porte en lui dues à son passé ou dues aux troubles qu'il vit au travail ou pour avoir passé une mauvaise journée? Mais comprenez, un échec au travail n'est pas une raison pour être amer, colérique et impatient à la maison. Si quelqu'un vous donne du trouble au travail et ne vous aime pas, monsieur, ce n'est pas la faute de votre épouse ni de vos enfants, de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Mais c'est souvent eux qui payent. Vrai ou faux? Mais le contraire est vrai aussi. Ce n'est pas la faute non plus de vos amis que votre épouse se lève le matin avec un visage comme un gant de boxe. On ne peut pas tout avoir dans la vie. La vie est parfois injuste, même pour Jésus, comme pour nous. La vie est parfois injuste, ingrate, cruelle, traite et dure. Et si la vie est injuste, ingrate, cruelle, traite et dure, c'est parce que les gens sont parfois injustes, ingrats, cruels, traite et durs. L'humanité a la capacité de faire du mal, de nous faire du mal. Regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jésus, le Fils de Dieu? Et lui était parfait et il faisait des miracles. Quelle chance avons-nous? On ne peut pas être épargné de ces choses, cette réalité-là. Les disciples auraient pu payer pour les gestes des citoyens de Chorazin, avec un Jésus qui est misérable, impatient, avec un air déprimé. Mais à travers les situations les plus douloureuses et difficiles, il faut apprendre à faire comme lui. Arrêter pour adorer avec reconnaissance et confiance et ne laisser rien changer notre attitude, nos paroles et notre atmosphère. Comment, si vous le croyez, une bonne main d'applaudissement. Rien ne va changer. Personne ne va payer pour mes troubles. Confiance et reconnaissance, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Au lieu de fixer nos regards sur ce qui nous fait mal, on apprend à fixer nos regards sur Dieu, de lever notre tête, même dans les pires moments, et dire, je te loue, Père. Souvenez-vous de ça. Dans les pires moments d'ingratitude, d'injustice, de rejet, d'échec, de pression, n'oubliez pas, souvenez-vous de ces mots-là. Non, je ne vais pas laisser ces choses-là me vaincre, ni ces attitudes, ni cette attitude, ni les paroles. Je ne vais pas dégager l'amertume, colère, impatience. J'arrête sur le chemin et je dis, je te loue, Père. J'ai confiance en ta bonté, souveraineté, ton autorité. J'ai entière confiance que tu as préparé quelque chose pour moi, l'autre côté. Alors, je te loue. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Je te loue. On fixe nos regards sur Dieu. On lève notre tête et on dit, je te loue, Père. Je n'ai pas tout ce que j'aimerais dans ma vie et ma vie n'est pas parfaite, mais merci pour qui tu es et pour ce que tu m'as donné. Quel exemple puissant que Jésus nous présente avec ce petit geste. Au lieu de bouder ou de tomber dans l'abîme de l'apitoiement ou dans le piège de la colère et de l'amertume ou de s'attrister pour ceux qui n'avaient pas ou de dégager une frustration envers ses disciples pour ceux qui viennent d'arriver, il loue Dieu pour ceux qu'il était avec lui, pour ses amis. Wow! En disant, les personnes là-bas m'ont peut-être rejeté, mais ces personnes m'aiment. Je n'ai peut-être pas tous les amis ou les possessions que j'aimerais avoir, mais je refuse d'être prisonnier de l'amertume, mais plutôt libéré par la gratitude pour ce que j'ai, avec les yeux non pas fixés sur ce qui est en arrière, mais plutôt vers en avant, tout ce que Dieu a préparé pour moi, pour ne pas être prisonnier du passé ou victime des actions ou décisions des autres. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est sûr que ça peut tout changer. La prière d'action grâce, exprimée par la louange, C'est une façon d'arrêter de remarquer les bénédictions chez les autres avec l'envie et à commencer à rendre grâce pour les bénédictions chez nous avec reconnaissance. Tous ensemble, merci pour ma famille, merci pour mes amis, merci pour mon épouse, merci pour mon époux, merci pour mes enfants, merci pour la famille de Dieu, merci pour le salut, merci pour qui tu es, Dieu, merci pour mon église, merci pour mes pasteurs. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Comment on a une bonne minute d'applaudissement, de reconnaissance. Merci, merci, merci de reconnaissance. J'aimerais vous encourager le plus souvent que possible. N'hésitez pas juste de dire un mot de compliment, un mot de remerciement aux équipes, aux bénévoles, à ceux qui travaillent avec les enfants, puis dire merci, je suis reconnaissant pour ce que tu fais. Merci pour le bon travail, le technicien de son. Merci pour le bon travail en arrière. Merci pour la musique, la présentation. Merci, Pasteur Dave, pour ton bon leadership. Quand il y a un bon message, n'hésitez pas de dire merci, Dave, pour un bon message. Croyez-moi, les pasteurs sont plus fragiles que vous pensez. Un compliment de temps en temps, bon message, bonne parole, bon travail, ça nous fait du bien. Il y en a qui vont dire, « Ouais, mais il va s'enfler la tête. » Inquiète-toi pas, il y a quelqu'un d'autre en arrière de toi qui va le désenfler assez rapidement. OK? Right? Ça fait presque 40 ans que je fais ça, là. Vous n'avez pas à vous inquiéter qu'un compliment va nous enfler la tête. Crois-moi, on a assez de critiques pour bien équilibrer l'affaire. On est plus fragile que vous pensez. Hein? Un compliment, là, c'est une prédication de temps en temps, ça nous fait du bien. Moi, je me souviens, ça fait longtemps que je fais ça, mais moi, je me souviens quand les premières fois que je commençais à prêcher, des fois, je cherchais un compliment de mon épouse, puis je disais, oh, je ne suis pas sûr que ça a bien été, hein, sur la route de retour après l'église, je disais à mon épouse, je ne suis pas sûr que ça a bien été ce matin, tu sais, la prédication, je cherchais un compliment. Mais souvent, elle disait, oui, je trouvais que tu avais de misère. Puis là, je répondais, « Comment ça, la misère? Essaye de prêcher, toi, tu vas voir que c'est pas facile. » Ça finissait toujours en chicane. Toujours en chicane, toujours. Parce que moi, je cherchais un compliment. Mais là, elle disait, « Ouais, c'est vrai que, mais comment ça? » Là, je ne demande plus. On parle de d'autres choses. On est plus fragile que vous pensez. Mais vous me suivez, hein? Compliment, gratitude, reconnaissance. C'est facile de donner un mot de critique, mais un compliment, un merci, bon travail. Merci à ceux qui travaillent un peu partout, la famille, les collègues. Hein? Gratitude, confiance. Et surtout, merci à notre Père céleste, notre Seigneur. Or, que plus souvent on peut dire, je te loue. Dans ces circonstances difficiles pour moi, là, je te loue, Père. Je te loue. Moi, je connais le rejet, mais toi, tu connais le rejet aussi. Moi, je fais du mieux que je peux, puis j'ai ça comme récompense, c'est arrivé à toi aussi. Je refuse de me noyer dans la mer d'apitoiement. Je te loue, Père, mon Père qui est bon, qui m'aime, qui est là. J'ai confiance en toi, Seigneur, et en ta volonté. Et je sais que tu as préparé quelque chose de merveilleux pour moi, juste l'autre côté. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Encore une bonne main d'applaudissement, Seigneur, pour ça. Yes! Il ne faut pas prendre pour acquis ce que nous avons. Parce que nous sommes tellement préoccupés par ce que nous n'avons pas. Ça me fait penser à un vœu que j'ai pris devant Dieu quand j'ai eu 50 ans, j'ai 58 ans. Quand j'ai eu 50 ans, j'ai mis un vœu sur papier. Je sais que je ne peux rien faire, j'ai dit ça à Dieu, je sais que je ne peux rien faire pour que tu m'aimes plus, quand ton amour est parfait et sans condition. Mais je m'engage à faire mieux pour te plaire plus souvent. Et même pour que tu m'admires de temps en temps. Je vais tenter d'être plus reconnaissant pour qu'est-ce que j'ai au lieu d'être frustré par ce que je n'ai pas. Je vais tenter d'être plus conscient de la richesse qui représente les bons amis, les bons moments, les bonnes choses que tu m'as confiées, tout ce que tu me permets de faire, de ressentir, de goûter, d'expérimenter, ainsi que la valeur inestimable de partager ma vie avec une merveilleuse épouse, ma famille. Ma vie est loin d'être parfaite, mais je vais faire un effort au quotidien pour prendre de bonnes décisions et de faire de bons choix en commençant par celui de garder les yeux fixés sur le fruit accompli et les opportunités à venir plutôt que sur les déceptions du passé ou les problèmes présents. Merci Dieu. Et nous avons un choix à faire à 50 ans, 40 ans, 30 ans, 60 ans, se décourager pour tout ce que nous n'avons pas et n'avons pas encore accompli et de revivre le passé avec regret ou rendre grâce au Seigneur pour le présent, pour ce que nous avons et vivre avec confiance pour un meilleur avenir. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est une décision à prendre. Je te loue, Père. C'est une décision. C'est une décision. C'est être chrétien facile quand tout va bien, mais être un vrai chrétien, c'est de faire ce qu'il faut faire quand tout va mal. C'est pour ça que Jésus a dit ces mots-là. Je te loue dans un moment difficile pour lui. Je crois qu'un moment de reconnaissance pour nos épouses, enfants, amis, frères et sœurs et notre Dieu peut nous faire un monde de bien et nous sauver d'un monde de douleur et de regrets. Et ne dites jamais c'est trop tard pour vous et que vous n'avez vraiment aucune raison pour louer Dieu, pour être reconnaissant. Ce matin, un chrétien a toujours une raison pour dire merci, toujours, car chaque jour est un miracle pour nous. Le miracle du salut, la vie nouvelle et éternelle, le pardon de mes péchés, la promesse du ciel, Christ qui habite en nous, que pouvons-nous demander de plus? C'est un miracle ce que nous vivons. Ça me fait penser à cette chanson populaire il y a une couple d'années, une chanson séculière que qui a capté mon attention parce que je l'ai entendue quand je faisais un workout au centre sportif. Oui, vous êtes surpris, j'ai fait des workouts. Je sais que, oh oui, t'as pas l'air de, mais c'est moins efficace qu'on pense. Mais je fais des workouts dans un gym public, puis ils jouent la musique publique, puis j'entends des fois, puis des fois, il y a des chants qui captent mon attention. Ça, c'est un qui était par Metro, je pense, c'est ça. Breathing Underwater. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça, I'm breathing underwater, breathing underwater? Qui demande la question en anglais, is this my life or am I breathing underwater? Qui est une autre façon de dire, ma vie est un miracle, c'est comme si je respire sous l'eau. So, j'ai fait une petite recherche pour dire, d'où ça vient la source de ce chanson-là? Puis c'est justement ça. Cette chanson parle du succès du groupe Breathing Underwater, respirer sous l'eau, c'est l'accomplissement de tout ce que le monde croyait impossible parce que personne ne s'attendait à un tel succès. On parle ici sur une note d'incrédulité et de bonheur. Nous sommes ravis de nous être rendus jusqu'ici, d'avoir réalisé l'impossible. Et là, j'ai compris, j'aimais cette notion-là. C'est comme, is this my life or am I breathing underwater? C'est-tu un miracle que je vis ou c'est-tu vraiment ma vie? Et j'ai pensé, j'ai dit, c'est vrai ça. À tous les jours, quand on se réveille avec le Seigneur et on est sauvé, pardonné, on marche avec Dieu, on fait partie d'une grande famille de Dieu, on dit, et c'est-tu ma vie ça? Or am I breathing? C'est un miracle ce que je vis. C'est la reconnaissance que tous les jours est un miracle avec le Seigneur. Wow! Ça doit remplir nos cœurs de reconnaissance. C'est quelque chose qu'on devrait remarquer tous les jours. La vie éternelle, comme si je respire sous l'eau. Je te loue. Dis au bon moment, remplace l'amertume avec la reconnaissance. Elle remplace la timidité, l'apitoiement, l'angoisse par la confiance. Confiance en la capacité de Dieu, le caractère de Dieu, la crédibilité de Dieu. Puis je termine avec ceci, puis Will peut s'avancer. On va terminer justement en pratiquant ça. On va juste offrir un moment de louange à notre Père. Mais une des tactiques les plus efficaces du diable, c'est de servir des circonstances difficiles et parfois incompréhensibles que nous vivons pour semer le doute en nous. Il veut semer le doute. Il veut qu'on doute la bonté de Dieu, la parole de Dieu. Il va servir de la méchanceté des autres et les injustices pour détourner nos regards sur Dieu, les bonnes choses que nous avons, et nous donner l'impression que c'est lui qui a la main haute, afin de voler notre joie, notre confiance, notre louange, pour nous faire oublier qui Dieu est, notre Père souverain, et ne sous-estimer jamais les effets dangereux du doute, comme dans l'histoire d'Adam et Ève. Le doute conduit vers la désobéissance, qui crée la dysfonction, qui finit par la distance, la séparation, l'éloignement. Juste tout commence avec le doute. Douter la parole de Dieu, la bonté de Dieu, les bonnes intentions de Dieu, doute, désobéissance, dysfonction et distance. Satan veut nous faire croire que nous allons toujours demeurer victimes de lui, de nos sentiments, nos habitudes, nos péchés, nos circonstances, mais ce n'est pas vrai. Et le temps est venu pour remplacer les mensonges de l'ennemi avec la vérité de Dieu, le découragement avec la reconnaissance, le doute par la confiance, afin de mettre l'ennemi à sa place une fois pour toutes. Ça serait merveilleux si on pouvait éviter toute situation triste et désagréable, être à l'abri des attaques de l'ennemi, les injustices humaines, mais c'est impossible aussi longtemps que nous vivons sur cette terre. Mais il n'est pas nécessaire que nous soyons écrasés par eux. Nous pouvons faire face avec force et confiance et une foi qui s'exprime par l'action grâce et la louange. Ça, c'est la foi chrétienne. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Comment tout le monde debout?